8h23, la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une ce matin, l'addition des colères.
Des revendications qui s'accumulent, des gilets jaunes toujours aussi déterminés malgré les quelques reculades du gouvernement et d'autres mouvements de contestation qui sont en train d'apparaître, routiers, lycéens, agriculteurs. Il faut le reconnaître, relève Le Monde, il y a 3 semaines, personne, pas même les premiers gilets jaunes, n'imaginait l'ampleur, l'intensité et la violence du mouvement qui est en train d'ébranler le pouvoir exécutif. Sauf les amateurs de comparaisons hasardeuses, personne n'imaginait que ce feu de brousse, déclenché par l'étincelle de la hausse des prix de l'essence, pourrait entraîner une crise sociale et politique qui est bien près d'être comparable aux révoltes de celles de mai 68 ou de l'automne 95, insaisissable et incontrôlable. En effet, constate Libération, telle une coque de noix ballottée par les vagues, le gouvernement tangue et roule dans la tempête. Après avoir clamé partout qu'il maintenait le cap, il a soudain abandonné ses projets de hausse des taxes sur les carburants, avec un président muet, un premier ministre semi-zombiesque, des députés amateurs qui chancellent sous les coups, l'équipe macronienne à tout du vaisseau fantôme. Bientôt l'évidence s'imposera, s'exclame encore Libération, le président qui pour l'instant rase les murs devra bien monter en première ligne pour proposer une solution à la crise. Quand on est la cible principale, on ne peut pas rester immobile.
La Macronie ressemble à un bateau ivre, renchérit l'humanité.
Et encore, l'image paraît presque impropre, relève le quotidien communiste. Le bateau prend l'eau de toutes parts et rien ne nous dit qu'il n'est pas menacé de sombrer sous une forme ou une autre, tôt ou tard. Certes, les hausses de taxes sur les carburants ont été purement et simplement annulées, mais, pointe le journal de la Haute-Marne, l'addition des atermoiements et du silence assourdissant entretenu par le chef de l'État a sérieusement diminué la portée de cette annulation. Le mouvement est passé à autre chose, avec une liste de revendications et de doléances qui n'en finit pas de s'allonger. Certains y verront le triomphe de l'irrationnel et de la démagogie. Il vaudrait mieux y voir une soupape, estime le quotidien champenois, une soupape qui libère les frustrations et le sentiment de relégation de plusieurs millions de Français. La prise de parole sans filtre est assumée comme une forme de prise de pouvoir. Un abcès vieux de plusieurs décennies est en train de percer sans qu'on puisse en évaluer les conséquences.
Alors, après l'abandon de la taxe sur le carburant, l'exécutif va-t-il céder sur le retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune réclamé par les Gilets jaunes?
Eh bien non, apparemment. Devant le Conseil des ministres, hier, le président s'est voulu inflexible. Nous ne détricoterons rien de ce qui a été fait depuis 18 mois. Emmanuel Macron n'a pas l'habitude des rappels à l'ordre en public, pointe les Échos. Ce mercredi, pourtant, le chef de l'État a opposé une fin de non-recevoir à ceux qui voulaient notamment mettre ce fameux dossier de l'ISF sur la table des concertations qui vont s'ouvrir. Et dans son discours à l'Assemblée, hier en début d'après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe a, comme le chef de l'État, défendu la réforme de l'ISF transformée en IFI, impôt sur la fortune immobilière, assurant qu'il ne craignait pas le débat sur son évaluation. Pas de retour de l'ISF donc, malgré ce qu'avaient avancé certains ministres comme Marlène Schiappa. Emmanuel Macron ne veut pas en entendre parler et le président a raison, estime le Figaro. Laisser lancer dès maintenant le sujet ISF, c'est s'exposer au principe des dominos, affirme le quotidien de droite, c'est-à-dire accréditer l'idée que la première concession ne suffira pas et qu'il faudra les accompagner d'autres reculs successifs jusqu'à déconstruire le socle même du quinquennat. C'est pourquoi Macron a prévenu qu'il n'était pas question de détricoter ce qui a été fait. Si un ministre n'est pas astreint à son seul domaine de compétence, son rôle est plutôt de défendre la ligne fixée au sommet, pas de s'exprimer publiquement pour l'infléchir en disant « je proposerai ».
Il n'empêche, hein, malgré le veto de Macron, le débat est lancé dans la presse.
Mais où est donc passé l'argent de l'ISF, s'interroge ainsi en une La Croix. En allégeant la taxation du patrimoine, Emmanuel Macron faisait le pari que les sommes économisées par les plus aisés contribueraient à alimenter l'économie productive. Un an après le vote de la réforme, il demeure toutefois difficile de retracer la voie prise par les milliards d'euros d'allègement. Les chiffres sont là, toutefois, pointe La Croix, entre l'ISF de 2017 et l'IFI de 2018, les comptes sont vite faits. Pour sa dernière année, l'impôt sur la fortune a rapporté 4,2 milliards. Pour la première année de l'impôt sur la fortune immobilière, Bercy table sur des recettes de 1,1 milliard. Avec cette mesure, les contribuables les plus aisés ont donc vu leur facture s'alléger de 3,1 milliards. Alors, où est passé cet argent? Est-il allé alimenter l'économie productive, comme le souhaitait le gouvernement, ou bien est-il resté dans les poches des riches? Difficile de le savoir précisément pour l'instant.
Enfin, comment cette crise des Gilets jaunes est-elle fait le ressenti à l'étranger. Sud-Ouest se penche sur la question.
Au-delà de l'emphase des mots et des photos choc de la plus belle avenue du monde envahie par les casseurs, le ton ne se borne pas au retour des clichés habituels sur une France allergique aux réformes et tenaillée par l'envie d'en découdre, relève Sud-Ouest, de voir un président français, largement élu, il y a 19 mois à peine, se débattre si vite dans un tel pétrin incite les observateurs étrangers à regarder plus large. Comment remédier aux carences d'un modèle socio-économique qui a fait naître de telles frustrations? Comment répondre à la demande d'égalité et vaincre l'hydre de l'évasion fiscale qui prive tous les États de marge de manœuvre? Mais surtout, s'interroge encore Sud-Ouest, surtout comment améliorer le dialogue avec les citoyens à l'ère des réseaux sociaux, où vérité et mensonge cohabitent, et où la viralité des mots d'ordre peut coaguler colère et émotion sans offrir de garde-fous. Ces questions se posent partout, conclut Sud-Ouest, avec ou sans gilets jaunes.
Merci Frédéric Couteau, vous retrouvez la revue de presse sur RFI.fr.